Les résultats trimestriels de PepsiCo sont plombés par l'impôt, Pierre-Yves.
Oui, parce qu'il y a une provision d'impôt liée au fait que, tu sais, on a parlé qu'on donnait aux États-Unis l'imposition des revenus internationaux dans des paradis à quelques endroits, qu'on allait taxer ça à un taux bien précis, qu'on allait réduire l'impôt des entreprises. Mais c'est un peu ça qui arrive. Il y a 2,5 millions d'impact net en provision comptable au niveau fiscal. Et on dit, oui, mais en fait, c'est 4 millions de baisse, c'est 4 millions de charges, mais c'est annulé par 1,5 million du fait que les impôts différés, ça c'est très comptable, les impôts différés vont être taxés à un taux inférieur. Donc, en somme, dans le trimestre, si on enlève ça, on est à profit. Mais là, à cause de la charge fiscale de 2,5 milliards, on tombe dans le négatif. Et c'est intéressant de voir Pepsi parce que c'est pas juste la liqueur. C'est les Lay's, c'est le Mountain Dew, c'est les Doritos, c'est Quaker, c'est Cheetos, Paul. On va plus loin, c'est même les boissons Starbucks distribuées en contenant pré-mélangé, si on veut. C'est Pepsi qui fait ça. Il y a aussi Aquafina, l'eau, Tropicana, jus d'orange. Donc, tout ça génère pour un trimestre, le dernier trimestre, 19,5 milliards de revenus. Et évidemment, c'est au niveau de la provision pour impôts qui fait en sorte que le revenu devient négatif parce que normalement, les bénéfices sont plutôt au-dessus du milliard. Mais c'est intéressant de voir que chez Pepsi, le nerf de la guerre avec Coca-Cola, c'est de mettre la main sur les bornes de distribution, donc dans les restaurants, chez les machines distributrices pour changer les habitudes des consommateurs pour que ceux-ci, une fois rentrés chez eux, achètent à l'épicerie. Et là, on fait de l'argent avec ça.
Avec le Pepsi-Cola plutôt que le Coca-Cola.
Exactement.
Environ la moitié des Québécois vont bouder le REER cette année. Logique fiscale?
Oui, parce que, regarde le taux d'épargne au Canada, il est rendu à 2,6% au dernier trimestre de Statistique Canada, donc le troisième 2017. 2,6%, c'est très peu. Évidemment, le REER, pourquoi il n'y a pas la moitié du monde qui ne met pas de REER? Il y a un gros pourcentage de la population, Paul, qui ne déclare pas un gros revenu. Les dernières données de Revenu Québec disponibles ont dit que 39% des Québécois déclarent en bas de 25 000 $. Donc, si tu déclares en bas de 25 000 $, c'est normal, un, que tu n'aies pas les moyens de mettre de REER, et deux, même si tu en mets, même si tu contribues, ta déduction fiscale est tellement pas avantageuse que tu laisses faire. Et là, si on monte jusqu'à 50 000, tu ajoutes un autre 30%. Donc, il y a 70% des gens qui déclarent, je dis bien déclarent moins de 50 000 $. Donc, le REER est intéressant si on peut déduire à un taux supérieur pendant notre période active par rapport au taux de la retraite. Mais évidemment, on ne te permettra pas de déduire des revenus que tu ne déclares pas. Donc, il y a des gens, dans le fond, qui se disent « Pourquoi je mettrais des REER? Je suis bien mieux de frauder. » Tu sais, je blague, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a une portion de la population, surtout que les statistiques sont sous-évaluées. Donc, il y aurait au Québec 2,6 millions de personnes qui gagneraient entre 1 et 24 000 $, Paul. Et c'est un peu pour ça que le REER est moins intéressant. Donc, évidemment, les gens vont ni contribuer à ça, ni au CELI, parce que c'est une question de moyens.
Mais c'est une question aussi de pouvoir y contribuer. Je ne sais pas si tu as vu cette statistique inquiétante. Aujourd'hui, près d'un million de Canadiens, un million, c'est beaucoup de monde, là, se sacrifient pour payer leurs médicaments. Ils achètent moins à l'épicerie, ils ont des logements plus froids. C'est le sacrifice que font près d'un million de Canadiens afin de pouvoir simplement acheter des médicaments au cours de l'année.
Oui, parce que même quand on est couvert, il y a une portion non couverte, c'est 70%. Donc, le 30% qui reste, il faut le décaisser et c'est de l'argent sonnant chaque mois.
Alors, imagine-toi, quand tu penses d'abord à tes médicaments, au détriment de ton alimentation, tu penses encore moins à ta contribution à ton
REER.
Anyway, Franck et Hawk reçoit un coup de pouce de la Caisse de dépôt.
Oui, 20 millions de $ de la Caisse et d'autres partenaires, parce que la Caisse n'investit pas le 20 millions. C'est avec le Goodwater, et aussi Investissement Québec et autres. Donc, c'est quoi Frank and Oak? C'est de la mode. Donc, c'est surprenant de voir la Caisse investir dans la mode, parce qu'on sait que les déboires du commerce au détail et de la mode. Mais Frank and Oak a un modèle un peu différent. On y va vers l'intelligence artificielle. On veut que les gens s'abonnent à des vêtements. Donc, Frank and Oak, c'est des vêtements, ce qu'on appelle le fast fashion. Là, c'est très accessible. Et ce qu'on fait, c'est qu'à chaque mois, on veut que les gens prennent un abonnement. Tu sais, un peu comme le Club Columbia. Mm-hmm. Chaque mois, il y a une intelligence artificielle qui va regarder ton comportement de consommateur et qui va se dire, bon, ben Paul Hood, voici son style vestimentaire, je vais lui envoyer par la poste, une fois par mois, un kit de vêtements. Il va me l'acheter. Donc, tu vas avoir un abonnement mensuel à de l'achat de vêtements. Et ça, évidemment, ça développe de l'intelligence artificielle pour penser à quel vêtement te ferait bien ou que tu veux. Et en même temps, ça génère des ventes récurrentes. Parce que une fois que tu es pris dans l'abonnement de Frank & Oak, tu vas pas ailleurs puisque tu as assez de vêtements dans cette boutique-là. Et en plus, comme les vêtements ne sont pas très marqués, donc on voit pas la compagnie sur les vêtements, ça fait en sorte que les gens ont l'impression d'avoir de la diversité tout en achetant au même endroit. Donc, c'est de convaincre les gens d'acheter plus de façon récurrente et de façon continue. Et c'est, il y a le modèle, mais ça demeure l'industrie de la Guinée et ça demeure hautement concurrentiel avec H&M et autres, Zara, etc. Donc, on voit que c'est intéressant, mais la caisse se soutient d'un point de vue politique, c'est-à-dire contribuer au développement du Québec et aux entreprises locales.
Merci Pierre-Yves et à demain.